marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Au secours ! Va chercher un médecin !
Au secours !
Au secours !
Au secours !
Une histoire politique du polar américain.
And the Oscar goes to...
Et l'Oscar est attribué à...
Frances McDormand.
Frances McDormand. Three Billboards. Les panneaux de la vengeance.
If I may be so honored... To have
c'est
all the female nominees in every category stand with me in this room
les femmes
tonight.
Nommées dans
the
toutes
actors,
les catégories
Meryl,
ce
it,
soir, toutes
will,
les actrices, Meryl, lève-toi, les productrices, les réalisatrices, les auteurs, les compositeurs, les stylistes, les costumières, allez-y, levez-vous.
Quand le soleil noir du polar, bien avant l'avènement du cinéma parlant, s'est levé. Le genre était piloté par des magazines bon marché qui eurent le mérite de faire se lever une génération d'auteurs qui écrivaient au nom d'une expérience vécue. Dans les années 30, ces auteurs entrèrent dans le champ de force hollywoodien. Ils étaient trop impécunieux pour s'en libérer, trop intelligents pour s'en satisfaire. C'est pour cela qu'on leur doit des portraits de Hollywood en forme d'enquête qui pourrait dessiller les yeux des amnésiques. Leurs scénarios sur les studios tournaient en effet souvent autour de chantage, chantage sexuel. Exemple, combien contre ces photos déshabillées ? On dirait aujourd'hui sex tapes. Aussi, quand on entend les personnalités d'Hollywood de 2018 feindre la naïveté, on est tenté de leur lancer « Mais vous n'avez donc jamais lu ou vu un polar ?» Les années 30, années de l'envol du parlant, sont aussi et surtout celles de la Grande Dépression. Après les gangsters et les détectives, voici que surgissent dans le polar des personnages de hors-la-loi prolétariens. Ils vont prendre leur place dans la galerie des héros antifascistes qui se constituent alors. Les auteurs de polar, souvent regardés de surplomb par la littérature mainstream, vont se retrouver sur le même front culturel que des romanciers plus classiques. Ce front commun, où le polar occupe donc pour une fois une place reconnue, tiendra jusqu'à la victoire de 1945, un peu au-delà, avant d'être emporté par la nouvelle configuration politique de la guerre froide. Mais dans l'Amérique telle qu'elle est devenue, ce grand moment de l'histoire du polar est menacé lui aussi d'être recouvert par l'amnésie.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Benoît Tadier, bonjour.
Bonjour Jean.
Hypermnésique en matière de polar. Vous rentrez d'un long séjour en Italie, qu'est-ce que vous avez fait en Italie ?
Je m'occupais de choses qui n'avaient rien à voir avec
si,
ça.
Mais... Vous avez commencé à méditer sur la mondialisation du polar. Et est-ce que les mêmes thèmes se retrouvent en Italie et aux États-Unis ? Oui, bien sûr.
Oui. Il y a beaucoup de liens entre l'Italie et les États-Unis, y compris criminels, comme vous le savez.
Deuxième livre sur le polar américain, Front criminel, une histoire du dit polar américain, c'est aux presses universitaires de France. Alors le polar, il est souvent considéré, étudié comme un genre, c'est assez rare que des historiens cherchent à le périodiser.
Absolument, c'est pour ça que je me suis attelé à cette tâche, parce qu'on a tendance à le considérer comme quelque chose d'un peu mythologique et de stéréotypé, qui n'aurait pas d'évolution vraiment, avec des personnages fixes, du détective, de la femme fatale, du mafieux, etc. Et j'ai voulu montrer au contraire qu'il répondait donc au mouvement de l'histoire, qu'il était lui-même dans l'histoire, qu'il y avait aussi de l'histoire dans le polar, et que c'était un aspect qu'il fallait essayer de montrer, et qu'on n'avait pas beaucoup, je pense, cherché à montrer jusqu'ici.
Bon, ça c'est votre justification. Devant l'université, les auditeurs de France Inter, en fait, vous êtes une personne qui a fait un transfert mental et qui n'arrive pas à en sortir.
Absolument, ça c'est pour l'histoire personnelle, si vous voulez, absolument. Je pense que c'est d'ailleurs depuis très très longtemps que j'ai commencé à en lire et il m'a paru important un jour d'essayer de comprendre pourquoi ça me fascinait et aussi d'essayer de montrer que c'était une littérature importante.
Et vous en lisez depuis ?
Et j'en lis toujours depuis.
Non mais depuis quel âge ?
Depuis l'âge de 13-14 ans, sans discontinuer, jusqu'à aujourd'hui.
Avant même de commencer à imaginer faire des études de littérature ou d'histoire.
Avant même de, bien sûr, et au départ j'étudiais des choses qui n'avaient rien à voir, qui étaient beaucoup plus canoniques, disons, et puis je me suis dit que c'était pas mal d'essayer d'allier l'utile et l'agréable, donc j'ai franchi le pas et je me suis attelé à cette tâche-là.
Mais pourquoi diable veut-il commencer sa démonstration, Benoît Tadier, par les déclarations bien connues du président Wilson à la fin de la Première Guerre dans laquelle il avait engagé les États-Unis.
Le monde fit éclater sa joie le 11 novembre 1918. C'était la fin de la pire des guerres de l'histoire. Et chacun pensait que c'en était la dernière, que les peuples ne permettraient jamais le retour d'un semblable drame. De la grille de la Maison-Blanche, le président participait à la joie populaire. Heureux comme tout le monde, mais déjà inquiet, soucieux. La guerre qu'il détestait, à laquelle il s'était longtemps refusé, était terminée, gagnée. Mais maintenant, pourrait-il gagner la paix ?
Je peux prédire avec une certitude absolue qu'en moins d'une génération, une autre guerre mondiale éclatera, à moins que les nations du monde s'unissent pour trouver comment prévenir tout nouveau conflit.
Oui, pourquoi Benoît Tadier commençait par ces paroles pénétrées d'humanisme, de souci de la paix et de l'harmonie de Wilson?
Parce qu'elles ont suscité justement un très grand refus chez la génération donc d'après Wilson, celle des combattants, et notamment celle des auteurs qui avaient participé au combat ou qui avaient mentalement s'étaient projetés dans cette expérience, notamment parce que justement l'idéalisme de Wilson était apparu à la suite du traité de Versailles comme inadaptable, disons, au contexte de l'après-guerre, qui avait donc eu un grand échec de cette volonté de rendre le monde sûr pour la démocratie, comme il avait dit dans ses mots célèbres. Et avec lui, on fait naufrage toute une certaine vision de l'idéalisme historique et du progressisme qu'il incarnait, et que ses mots, son discours incarnait. C'était aussi un très grand orateur, donc il avait eu un impact immense sur les foules américaines. Il avait réussi à changer l'opinion publique, qui au départ était très hostile à la guerre, et à la convaincre de la nécessité de faire cette guerre par ses grands mots. Et puis un jour, ces grands mots se sont avérés assez creux.
Et donc, c'est contre Wilson que se forge dans le polar, par exemple, dans les magazines populaires du polar, un vocabulaire de dur à cuire. Alors vous employez beaucoup ce mot de dur à cuire, ça c'est l'argot français, et ça se dit en anglais à l'expérience de la tranchée et de la guerre en France.
Ça se dit hard-boiled, voilà, qui est effectivement un terme à l'origine qui vient de la cuisson des œufs, puisque pour qu'ils soient durs, il faut les bouillir longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot hard-boiled lui-même vient des tranchées, et c'est un des rares mots d'argot inventé par les soldats américains qui soient revenus dans la vie civile, et qui ait ensuite indiqué un comportement, disons, social, que l'on retrouve chez beaucoup de vétérans de la guerre, et ensuite une forme de littérature justement qui s'intéresse à des personnages comme ça et qui d'ailleurs ne concerne pas que la littérature criminelle. À l'époque, on parle aussi de hard-boiled pour Hemingway, parfois même pour Faulkner, mais qui se concentre quand même beaucoup sur ces récits de gangsters et autres criminels stoïques et sceptiques face à l'idéalisme ambiant.
Oui, mais Hemingway et Faulkner ne vont pas écrire dans ces publications qui font émerger les auteurs de la première génération de polar et qui sont des publications papier gris, pas cher, 10 fois moins cher que les hard papers, que les livres reliés.
Absolument, c'est un domaine de l'édition qui est entièrement à part, dont il faudrait parler un petit peu. Ce sont des magazines donc qui coûtent peu cher, qui coûtent entre 15 et 20 cents, ce qui n'est pas grand-chose, et qui permettent de donner, disons, aux masses américaines de nourrir d'étancher leur soif de fiction permanente à travers des histoires d'aventures de tout type. Des histoires qui au départ sont assez stéréotypées mais qui petit à petit se spécialisent. Je pense que c'est justement intéressant de voir comment après la Première Guerre mondiale, ce domaine qui est jusque-là assez apolitique se politise sous l'impact d'écrivains comme justement Dashiell Hammett, qui est le grand inventeur du hard-boiled criminel et qui s'empare de ce type de fiction dans un grand magazine pulp qui est devenu légendaire depuis et qui s'appelle Black Mask, pour justement transformer la nature même du récit criminel en lui donnant cet aspect à la fois dur et assez pessimiste, si l'on veut, qui lui manquait totalement autrefois.
Le genre gangster va caractériser cette première génération, avec aussi quelqu'un pour qui vous avez de l'affection, Burnett. Et le livre de gangster, le film viendra plus tard. Le livre, il se passe souvent à Chicago, et les auteurs de polar, d'ailleurs, entendent l'expérience des chercheurs en anthropologie, en sociologie de l'école de Chicago qui raconte comment se vivent les gangs.
Absolument, c'est une des découvertes que j'ai faites. Probablement pas le premier, mais c'était intéressant de voir dans une préface de Burnett, beaucoup plus tardive, à une réédition du Petit César. Il racontait donc dans les années 50 que, étant incapable d'écrire son histoire, il était tombé un jour sur un gros ouvrage de l'école de Chicago sur les gangs, qui est en fait l'ouvrage très célèbre de Thrasher, le gang étude de 1313 gangs de Chicago.
1313
gangs. Vous voyez, des gangs, il ne s'agit pas que de gangs d'ailleurs de type Al Capone, ça pouvait être aussi des petits clubs de quartier, des adolescents un petit peu voyous. Et donc il est tombé sur cette description sociologique et il s'y est tout à fait reconnu, y compris non seulement dans l'univers mais aussi dans le style qui était assez froid et détaché et qu'il a ensuite, dit-il, essayé d'appliquer justement à sa propre histoire de gangster qu'il a totalement dépouillé de tout sentimentalisme sous l'effet justement de cette lecture et dont il a accentué le côté assez sociologique. Ce qui est frappant aujourd'hui quand on lit ses premiers romans de gangsters, c'est justement cela.
C'est pas le bien et le mal, c'est les gangsters entre eux, dans des nuances de gris, voilà. Et de noir. Scarface, vous avez cité le nom d'Al Capone, c'est le modèle de Tony dans le livre qui date de 1930 et dans le film qui date de 1932.
Cet article est nul! L'assassinat de Costillo va provoquer une guerre des gangs. Voilà ce que je fais.
En ce moment, je travaille dans ce sens. J'ai 4 gars là-dessus.
4? Il en faudrait plus de 40 sur cette histoire pour les 5 ans à venir. Tu sais ce qui se passe. Cette ville est un magot à décrocher, mon vieux, tu piges. Tu vois, Costillo était le dernier chef de gang de la vieille école. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui arrive. Et chaque gars qui aura les moyens de se payer un flingue va tenter coûte que coûte de prendre sa place. Tu saisis? Ils vont se tirer dessus comme des lapins pour avoir le contrôle du commerce des alcools. Tu suis? Ce sera bientôt une véritable guerre. C'est ça, une guerre. Tu mets ça dans le titre. La guerre. La guerre des gangs.
Le meurtre de Costillo provoque une guerre des gangs.
Ah, ça pourrait jouer, je vois bien comment s'opère le transfert mental. Ce que vous auriez aimé, c'est avoir une séquence rien qu'avec des mitraillettes.
Absolument, oui, je crois que c'est un son qui est tout à fait emblématique de cette révolution-là.
Chicago, Los Angeles, on a ouvert cette émission par les Oscars qui ont été décernés hier. Comment le polar entre-t-il dans le champ de force hollywoodien? Les studios, ils ont plus de moyens à déployer devant les auteurs ébobis que les magazines pulps.
Infiniment plus, oui. Et les contrats, disons, pour adapter les droits ou pour acheter les droits des publications et en faire éventuellement des films, c'est même pas toujours le cas, rapportent infiniment plus que ne peuvent le faire la vente des articles ou des histoires aux pulps ou même l'édition en livre relié.
C'est-à-dire que même si le film ne se réalise pas, le livre a été réalisé dans des conditions telles qu'il pourrait être fait au cinéma.
Voilà, exactement. Et on ne compte pas d'ailleurs le nombre d'histoires qui ont été achetées et jamais tournées en réalité, mais qui ont quand même beaucoup rapporté à leurs auteurs. Donc il y a ça, il y a le fait qu'avec l'avènement du parlant, bien sûr, on a un grand besoin de dialoguistes et de scénaristes dans les studios, et c'est à l'époque, donc vers 1930, que au moment justement où le hard-boiled atteint sa première apogée, on peut dire qu'une espèce de grand SOS est lancé de la côte ouest vers la côte est pour essayer de rameuter toutes sortes d'auteurs. Alors il n'y a pas que des auteurs de polar, il y a beaucoup de grands écrivains aussi plus célèbres qui ont été à Hollywood, donc on a Fitzgerald, Faulkner et autres, mais il y a énormément d'auteurs pulp, certains d'ailleurs avec déjà un contrat en poche à la suite d'un succès, comme c'est le cas de Hammett ou de Burnett, et d'autres comme Horace McCoy qui n'avaient rien du tout en poche, mais qui sont allés avec l'idée d'essayer de s'incruster, comme il disait, à Hollywood, et qui ont démarré de manière extrêmement modeste en espérant un jour avoir un travail de scénariste.
Alors Hammett ne réussira pas vraiment à Hollywood, et puis vous datez le début de Chandler, du moment où Hammett va commencer à s'effacer. Alors, vous aimez les dialogues entre les mitraillettes, mais enfin, vous m'avouerez quand même que le film de détective Chandler va imposer le personnage qui va s'appeler au bout d'un moment Marlowe. Le film de détective, ça permet dans la langue beaucoup de virtuosité, beaucoup de richesse. Nous suivons Marlowe qui est conduit par un majordome dans un endroit étrange.
Il entra derrière moi, ferma la porte extérieure, ouvrit une porte intérieure et nous passâmes. Là, il faisait réellement chaud. L'air était épais, humide, plein de vapeur et imprégné de l'odeur écœurante des orchidées tropicales en pleine floraison. Les murs et le toit de verre étaient couverts d'une épaisse buée et de grosses gouttes d'eau éclaboussaient les plantes. Le jour était d'un vert irréel, comme la lumière transparente d'un aquarium. Les plantes remplissaient tout, une forêt de plantes avec de vilaines feuilles charnues et des tiges comme des doigts de mort frais lavés. L'odeur était aussi pénétrante que celle de l'alcool qui bout sous une couverture. Le larbin fit de son mieux pour me guider en évitant les gifles des feuilles ruisselantes et, au bout d'un moment, nous parvîmes, au milieu de la jungle, à une clairière sous un dôme de verre. Là, sur des carreaux hexagonaux, on avait posé un vieux tapis turc rouge. Sur le tapis turc, il y avait un fauteuil roulant. Dans le fauteuil roulant, un vieux type, visiblement en train d'agoniser, nous guettait de ses yeux noirs, dont tout le feu était éteint depuis longtemps. Le larbin s'immobilisa devant lui et dit « Voici Monsieur Marlowe, général. »
« Asseyez-vous. »«
Merci. »«
Vous pouvez ôter votre veston. »«
Merci. »
Vous avez devant vous, monsieur, une bien triste épave. Voyez ce qui reste d'une vie fastueuse, un infirme paralysé des deux jambes. Je ne touche au mec que du bout de la langue. Mon sommeil est si près de l'état de veille qu'il ne mérite pas le nom de sommeil. Je prolonge mon existence grâce à cette atmosphère surchauffée.
Oui.
Les orchidées ne sont qu'un prétexte dans cette serre. Les aimez-vous?
Pas particulièrement.
C'est affreux. Leur chair ressemble trop à la chair humaine. Leur parfum à la douceur pourrie de la corruption. Parlez-moi un peu de vous, monsieur Marlowe.
Le grand sommeil, alors c'est une lecture au début par Patrice Gauthier, France Culture, et puis le monologue du général Sternwood, doublé par Georges Chamara, c'est pas si mal. Hein,
Très bien, oui.
Dans le film, toujours un film de Hawks, il y a une histoire de chantage, bien sûr, dans l'affaire que doit démêler Marlowe. J'aimerais que vous nous parliez d'ailleurs des dessous de cartes sexuelles de Hollywood, des chantages sexuels. Le premier livre sur Hollywood 1923, c'est un personnage de Magna qui transforme les actrices débutantes en esclaves sexuelles. Et ils nous disent à Hollywood qu'ils sont au courant de rien.
Oui, aujourd'hui. C'est très intéressant hein, de voir que la naissance même du roman hollywoodien ou du policier hollywoodien à une époque déjà très lointaine, puisque Hollywood était finalement depuis que simplement quelques années le centre de la production cinématographique. Donc dans ce roman qui est La fille de Hollywood, The Girl from Hollywood, d'Edgar Rice Burroughs, beaucoup plus connu pour Tarzan que pour ça. L'origine même de ce roman policier hollywoodien est la question du chantage sexuel et de l'exploitation sexuelle réalisé par donc une espèce de mania inspirée d'ailleurs d'un personnage réel de réalisateur de l'époque. Il faut se rappeler que les premiers grands scandales de Hollywood datent de 1921-22-23, hein, notamment le plus célèbre d'entre eux qu'on se rappelle aujourd'hui, qui est l'affaire Roscoe Arbuckle, qui avait été soupçonné de tuer une starlette qui s'appelait Virginia Rappé lors d'une soirée un peu trop arrosée avec une bouteille d'alcool. Donc on dira pas exactement comment ici, mais c'était quand même une histoire particulièrement sordide et sur laquelle, du reste, Dashiell Hammett avait enquêté pour l'agence Pinkerton, pour la défense d'ailleurs.
Ouais, parce qu'il avait été détective, lui.
Parce qu'il avait lui-même été détective. Donc, si vous voulez, dès le début, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la suite de tous ces scandales, Will Hayes, le célèbre auteur du code, a été nommé donc directeur de l'administration du code de production afin d'essayer de moraliser Hollywood, qui a toujours, donc, dès le début, été, si l'on veut, perverti, ou en tout cas en proie à ce type d'histoires qui se sont reproduites et qui débouchent aujourd'hui sur l'affaire Weinstein et autres.
Il y a de quoi laisser les détectives perplexes. D'ailleurs, le personnage du détective, d'actif, est appelé à devenir de plus en plus méditatif dans le polar. Vous aimez bien, d'ailleurs, ça, le temps mort, le silence.
Oui, je crois que c'est une évolution. C'est très chandlérien, hein, ça, c'est en fait l'arc de la carrière de Chandler qui, de ce point de vue-là, reflète un petit peu l'évolution générale du polar. En 1933, quand il commence à écrire, il a des détectives qui échangent des coups de feu à chaque page avec leurs adversaires. Et à la fin, au contraire, il ne les gagne pratiquement plus. Et dans son dernier roman, Playback, de 1958, son détective est totalement impuissant et ne cherche même plus à adresser de tort.
Mais restons aux années 30, qui sont aussi celles de la dépression, de la lutte de classe. Vous employez plusieurs fois le mot. Combien vous êtes décalé, Benoît Tadier, dans votre livre Front criminel, ça veut dire aussi front populaire, front criminel peut-être au puf. Beaucoup de personnages de hors-la-loi, prolétaires, vont apparaître. Ainsi, celui-ci, Pretty Boyd, qui vient de l'Oklahoma,
oui.
Il a été abattu par le FBI en 1934,
oui.
Mais à son enterrement.
À son enterrement, il y a donc des dizaines de milliers de paysans de l'Oklahoma et on dit que c'est la plus grande foule qui se soit jamais rassemblée pour un enterrement dans l'Oklahoma.
Et puis son souvenir est gardé par Woody Guthrie.
It was in Oklahoma City, It was on a Christmas day. There come a whole carload of groceries with a letter that did say, well, you say that I'm an outlaw, you say that I'm a thief. Here's a Christmas dinner for the families on relief. Now it's through this world I ramble. I see lots of funny men. Some will rob you with a six-gun, some with a fountain pen. But it's through your life you travel, and it's through your life you roam. You won't never see an outlaw to drive a family from their home.
Alors là, on est sorti de Chicago, de Hollywood, la putride, grands espaces, l'Oklahoma, et des hors-la-loi aux dimensions mythiques qui vont finir peut-être par intéresser la littérature mainstream et pas seulement les auteurs de polar.
Absolument, et on le voit bien par exemple dans Les raisins de la colère de Steinbeck, hein, où le fantôme de Pretty Boy est présent, puisqu'il est sans cesse comparé au héros du livre, qui est Tom Joad, qui est lui-même d'ailleurs une sorte d'outlaw, puisqu'il échappe à la police après un meurtre à la fin du roman. Donc c'est quelque chose là où on voit effectivement les forces du roman mainstream rejoindre les histoires criminelles. C'est très important, je pense, la popularité de l'outlaw à l'époque de la crise, puisque vraiment il incarne, comme le dit la chanson de Guthrie, une sorte de rébellion populaire contre les banques en particulier. Vous voyez les dernières paroles, vous avez entendu les dernières paroles de cette chanson qui était « On n'a jamais vu un outlaw chasser une famille de sa maison ». Et certains, dit-il, vous volent avec un six coups et d'autres avec un stylo. Donc on voit bien le type de ressentiment et d'émotion même que cela peut figurer. Guthrie, qui est par ailleurs quelqu'un de très important dans la culture radicale de l'Oklahoma, il était donc très engagé à gauche. C'est un peu l'héritier de Joe Hill, le chansonnier de l'anarcho-syndicalisme américain. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que Jim Thompson, un des très grands auteurs du polar, publiera son premier roman 1941, car il s'entremettra auprès d'une maison d'édition très marquée à gauche qui s'appelle Modern Age Book pour publier son premier livre. Donc vous voyez qu'il y a toutes sortes d'entrecroisements et d'enchevêtrements.
Et une alliance, polar antifasciste, roman mainstream, roman d'espionnage, une alliance, dites-vous, libéraux, socialistes, marxistes aussi. Vous donnez la date de 1941, alors quand la Deuxième Guerre mondiale commence à son tour directement pour les Américains, on voit, allez, restons dans le cinéma, puisqu'on est sous l'égide d'Hollywood aujourd'hui, un film très fédérateur qui dit bien cette alliance. C'est un film maintes fois oscarisé, d'ailleurs, c'est Casablanca 1942.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique fut pour l'Europe asservie le symbole de la liberté. Et Lisbonne devint le centre d'embarquement vers le Nouveau Monde et vers l'espoir. Mais l'accès direct au Portugal était pratiquement impossible. Et ceux qui fuyaient l'oppression nazie durent emprunter des chemins détournés. Paris, Marseille, puis la Méditerranée, jusqu'à Oran. De là, ils devaient gagner Casablanca en contournant le Maroc espagnol. En chemin de fer, en voiture ou à pied.
Are you ready, Elsa?
I don't know what's right any longer. You have to think for both of us. For all of us.
Casablanca, où Ricky Bogart tient un cabaret, où vient le rejoindre très désemparé son ancienne maîtresse Bergman. Je disais, un film maintes fois oscarisé, je ne sais pas ce que sont devenus d'ailleurs les scénaristes oscarisés.
Les trois scénaristes, donc les frères Epstein et Howard Koch, ont tous trois été victimes de la liste noire après la Deuxième Guerre mondiale. Les deux premiers ont même été dénoncés par Jack Warner, ce qui est un comble, vu que c'était le patron du studio Warner pour lequel il avait écrit ce magnifique scénario qu'est donc Casablanca, mais ce qui en dit long d'ailleurs sur le devenir de tout un engagement un peu radical, disons, des écrivains et des scénaristes hollywoodiens après la guerre.
Alors qu'est devenu après la guerre ce front populaire que vous décrivez longuement dans votre livre, Benoît Tadier au PUF.
Eh bien, écoutez, il est frappé de plein fouet, on peut dire, par le revirement politique qui succède à la guerre, bien sûr, la guerre froide, la doctrine Truman. À partir de 1947, on voit bien que les choses changent. Disons que le dernier champ du cygne, c'est la candidature de Wallace, très malheureuse, à l'élection présidentielle. Après quoi, il y a vraiment tout un système qui se met en place, comme on le sait, de chasse aux sorcières, d'enquête de moralité, qui frappe d'ailleurs non seulement les anciens communistes, mais beaucoup, beaucoup de gens autour qui auraient pu être soupçonnés ou dénoncés d'avoir appartenu à des mouvements de gauche. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quand même une très grande majorité des auteurs qui étaient actifs avant la guerre, non pas virés de bord, mais plutôt changer de forme d'histoire pour raconter des histoires justement plutôt d'amnésie, de solitude intense. Hein. C'est l'emblème, à mon avis, de cette génération-là, c'est David Goodis, qui avait commencé comme auteur justement antifasciste à la fin des années 30 et qui se replie à partir du début des années 50 sur des histoires de personnages totalement solitaires et amnésiques qui cherchent à oublier leur passé, mais qui sont malgré eux remis face à leur passé par une histoire criminelle. Je vois là vraiment une sorte d'illustration de la condition de l'écrivain qui est obligé de prendre le maquis un petit peu d'une certaine façon, à travers d'un type d'histoire différente, dans laquelle on voit surtout qu'il refuse de marcher, disons, dans l'idéologie dominante et qui se replie sur des marges, sur une solitude intense. Et à mon avis, le grand roman noir de l'après-guerre, c'est ça, c'est un petit peu l'allégorie psychologique, si on veut, du macartisme, même si le macartisme lui-même en tant que tel est très rarement représenté. Enfin, tout ça.
Vous avez prononcé le mot amnésie, il est présent dans cette émission depuis le début jusqu'à la fin. Oui, mais ce que vous dites est relativement bien connu, mais dans votre livre, vous insistez aussi sur les conditions matérielles de production. Alors, on a parlé du passage à la domination du cinéma, mais qu'est-ce qui se passe dans les années d'après-guerre, dans les années 1950, dans le domaine de l'édition papier? Là aussi, il y a un grand changement.
Il y a un grand bouleversement, oui. Alors, les pulps meurent vers 1950. Ils meurent justement parce qu'ils sont concurrencés par une nouvelle forme d'édition, qui est le livre de poche. Le livre de poche, qu'on appelle en anglais paperback, et qui, à partir de 1950, s'ouvre aussi aux romans originaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus seulement des rééditions d'ouvrages parus précédemment en relié, mais s'ouvre à des auteurs qui, justement, venaient des pulps pour qu'ils écrivent directement des romans qui étaient commissionnés par les éditeurs et qui étaient vendus très peu cher. Ils étaient vendus 25 cents, ce qui était pratiquement le prix d'un magazine. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le pulp a périclité. Il y en a d'autres. Il y a aussi les comics, il y a aussi l'essor de la télévision à la même époque. Toujours est-il que ce paperback original, donc, qui démarre vers 1950 en trombe, devient la scène principale du polar de l'après-guerre, notamment parce qu'il y avait des éditeurs intelligents qui avaient donc fait appel aux anciens auteurs de pulp et qui leur avait permis finalement de raconter les histoires qu'ils voulaient avec très peu de contrôle éditorial. Et c'est comme ça qu'on a vu se créer un peu spontanément un nouveau style d'histoire plus complexe, plus personnel aussi que les histoires pulp, notamment parce qu'on passe également avec le pulp d'un format dominant qui était celui de la nouvelle au paperback, avec un format dominant qui est celui du roman, donc qui permet d'exprimer
beaucoup de choses. Et ça, c'est une masse, un vivier de public. Vous chiffrez pour les années 30, je sais pas ce qu'il en est pour les années 50, à 25 ou 30 millions.
Oui, tout à fait.
Le vrai public populaire. À qui va être servi à partir des années 50 le Digest, Rider Digest,
voilà.
Sélection. Alors là, c'est un changement de style politique et c'est idéologique.
Absolument, c'est beaucoup plus encadré, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus codifié. Et je crois
et
que...
là, c'est pas des héros noirs, mais ce sont hommes et les femmes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrés. On proposait ça tous les 15 jours dans Sélection.
Absolument, c'est très différent.
Merci à vous, Raphaël Rousseau, à la technique, la réalisation.
Merci.
Valérie Estaray, la préparation de cette émission consacrée au polar américain. Je rappelle que c'est les Puffs qui publient votre livre, Ilinka Negulesco. Alors, de quoi faire des insomnies, cher Mathieu Vidard?
Oui, est-ce que vous dormez
bien
la nuit?
Nous saluons votre retour.
Merci
Mathieu.
Beaucoup. Vous dormez bien la nuit, Jean?
Tout ben, va ça
bien
dépend, la barbe au-dessus de la tête d'oreiller et du drap ou pas, ça dépend.
Le programme complet pour en finir avec l'insomnie, c'est dans un instant, dans la tête au carré. À tout à l'heure.
14h, vous écoutez France Inter.